La main, pas si verte.
Bonjour à tous, La main pas si verte est de retour en ce printemps 2021. Le podcast des manias de la binette, des semeurs de balcon, des cultivateurs d'arrière-cour, le rendez-vous des jeunes pousses et des vieilles branches. On vous proposera dorénavant tous les mois un format d'une vingtaine de minutes autour d'une thématique choisie par nos soins. Il y aura à côté de cela des chroniques, des points de vue, des conseils. Allez, pour ce premier épisode, nous allons nous arrêter sur un sujet complexe et passionnant, le changement climatique. Quels sont les impacts du réchauffement des températures globales sur nos jardins et nos plantes? Comment s'y préparer? Docteur Jonquille et Mr. High nous éclaireront. Allez, foin de blabla, La main pas si verte, épisode premier, commun.
La main pas si verte.
Gaël Brolet, Daniel Yamba sont avec moi. Salut les gars.
Salut à tous.
Salut Hugo.
Alors ça y est les garçons, on est enfin de plein pied dans la belle saison du jardinier, celle des semis. Gaël, qu'est-ce qu'on plante d'ailleurs, qu'est-ce qu'on sème en ce moment au mois de mai?
Alors Hugo, effectivement, le mois de mai, c'est le meilleur moment pour semer. Vous pouvez semer des fleurs, des aromates, des légumes, et je vais vous en dire quelques-unes. On vous a fait une petite sélection, l'aneth, la betterave, la capucine, la carotte, la ciboulette, l'épinard, bref. Le mois de mai, c'est un des meilleurs mois de l'année pour semer, allez-y.
C'est noté, et je vous rappelle d'ailleurs que toutes ces graines sont disponibles et accessibles sur le site djma.fr. Don't believe the hype. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Daniel, tous les mois tu vas te pencher sur une tendance actuelle, un concept hype lié au jardin. Qu'est-ce que tu as déniché pour cette première?
Eh bien Hugo, connais-tu le cottagecore?
Non, ça ne me dit rien du tout.
Eh bien c'est une nouvelle tendance reprenant dans son nom cet effet d'esprit d'ajouter le suffixe core pour exprimer votre appartenance à un groupe. Après le hardcore, pour exprimer son amour de la musique punk particulièrement explicite et violente. Après le normcore, ce style vestimentaire célébrant le classicisme de Monsieur Tout-le-Monde, il y a aujourd'hui le cottagecore pour célébrer cette volonté de se mettre au vert dans sa maison de campagne. Et oui, pour le confinement, c'est toujours mieux que sa chambre étudiante sans fenêtre. Le cottagecore va même un peu plus loin, c'est vraiment le style petite maison dans la prairie, cette série qui nous a marqué, vous savez, par la chute de cette petite fille courant vague à l'âme pour retrouver ses parents. Eh bien ce style, de longues robes fleuries aux manches bouffantes, revient en force avec ce hashtag célébrant la vie pastorale, notamment en ramassant des fleurs sauvages et des champignons en buvant le thé dans votre jardin. Donc fini l'image du golden boy ou de la working girl vivant un rythme effréné et traversant Rockefeller Center avec un café à emporter dans la main, il faut désormais se plonger dans l'imaginaire d'antan, comme un peu dans la série de la chronique des Bridgerton, et passer ces après-midi à faire des confitures et documenter son herbier.
Et alors, si je comprends bien, le cottagecore a une dimension écologique.
Exactement Hugo, cela amène effectivement nettement plus de monde à se questionner sur son rapport à la nature. Il existe par contre, et comme toujours, de nombreuses critiques, car l'imaginaire du cottagecore renvoie finalement plus aux grands propriétaires terriens massacrant les Indiens ou exploitant des esclaves plutôt qu'aux cultivateurs affranchis des contraintes de la société comme on peut le retrouver dans les livres de Thoreau ou de Carpenter. Certains vont même plus loin, c'est un imaginaire aussi, une vision qui était promue par les nazis. Et oui Hugo, ça y est, j'ai franchi le point Godwin, car les nazis utilisaient cette image dans la construction de leur argumentaire pour défendre la mère patrie et les traditions contre les métropoles impures, mixées racialement et à la morale décadente. Le cottagecore, bien sûr, s'inspire seulement de l'esthétique et pas forcément du contexte historique des images. Faut-il séparer l'œuvre de l'individu? C'est un autre débat que nous n'avons pas le temps de lancer.
Et alors, est-ce qu'on peut, nous, l'adopter, petit jardinier, ce cottagecore au quotidien?
Oui, bien sûr, Hugo. Et d'ailleurs, selon la très sérieuse Royal Horticultural Society, le Cozy Cottage Garden sera la tendance de 2021 en jardinage. Donc, pour reproduire cet effet cottage, je peux donc vous conseiller de semer de la lavande, des pieds d'alouette, des coquelicots, de la sauge, de la reine marguerite ou bien de la mauve.
Merci Daniel pour cette découverte à mentionner dans les dîners, le cottage core, ça fera forcément son petit effet.
La main, pas si verte.
Venons-en à présent à notre sujet du jour, l'impact du réchauffement des températures globales sur notre jardin. Alors déjà, qu'est-ce qu'on sait à grande échelle et sur les végétaux en général? Les températures globales augmentent, c'est un fait, et ça va s'intensifier 1 à 3 degrés à l'horizon 2100. Or, on constate que les écosystèmes réagissent déjà à ces changements. Les êtres vivants ont deux possibilités, migrer vers le nord et en altitude, ou alors rester et s'adapter aux nouvelles conditions. Alors, migrer, c'est facile pour les animaux. Les papillons, par exemple, ont décalé leur aire de répartition de 135 km vers le nord entre 1990 et 2008. Eh bien, malgré leur immobilité apparente, les végétaux courent aussi après les températures.
Est-ce qu'on sait, Hugo, les distances qu'ils parcourent?
En moyenne, les espèces végétales grimperaient de 12 mètres par décennie en altitude et avanceraient de 17 km vers le nord. C'est ce que nous dit une étude de la revue Science en 2011. Ce phénomène devrait s'accélérer. Le chêne vert, que tout le monde connaît, espèce emblématique du sud de la France, pourrait recouvrir les trois quarts du pays en 2100.
Mais Hugo, tous les végétaux se déplacent?
Toutes les espèces ne peuvent pas disséminer comme ça leurs graines aussi facilement. Certaines doivent donc subir. Celles qui sont tolérantes à des températures plus chaudes, elles vont plutôt bien s'en sortir, voire en profiter, alors que celles qui n'ont pas cette plasticité disparaîtront peu à peu. Résultat de tout ça, une étude du Muséum national d'histoire naturelle a montré qu'en 10 ans, entre 2007 et 2017, la flore sauvage française a déjà changé globalement sous l'effet du changement climatique, ce dans tout le pays et dans tous les milieux. Alors enfin, à côté de ça, on observe des phénomènes d'adaptation à ces bouleversements. Certaines espèces avancent leur date de floraison. On en a récemment parlé, au Japon, les cerisiers étaient en fleurs dès le mois de mars cette année, du jamais vu, alors qu'ils fleurissent généralement au mois d'avril, voire au mois de mai.
Ce producteur de pommes est très inquiet. Cette nuit, dans son verger près d'Amiens, il a gelé, la température est descendue à moins 3 degrés. La période de floraison est un moment crucial. À cette époque, la fleur est gorgée d'eau. Elle est donc très vulnérable.
Il fait trop froid. Logiquement, si c'est gelé, là, ça va devenir noir. On le verra dans une ou deux journées, on le verra. Si ça devient noir, c'est que c'est gelé.
À Bordeaux, ce jeune couple de viticulteurs ne se fait plus vraiment d'illusions. La moitié de ses vignes a été touchée.
Vous voyez ici la feuille qui est recroquevillée, séchée, qui va finir par tomber et complètement mourir.
En 2017, leur vignoble avait déjà souffert du gel. Un coup dur, puisqu'ils ont investi 1 million d'euros.
Une seconde année quasiment consécutive va être vraiment difficile pour nous pour pouvoir arriver à payer nos emprunts, mais également faire vivre l'exploitation.
Pour protéger leur culture du gel, certains ont tout tenté, comme ici près de Strasbourg. Au milieu des pommiers, de grosses bougies pour réchauffer l'air, mais aussi une machine qui diffuse de la fumée. Avec un espoir que les températures remontent d'ici les prochains jours.
On vient d'écouter un reportage de France Info sur les gelées précoces très fortes. Daniel, en plus de l'augmentation des températures, le changement climatique engendre des perturbations extrêmes. On vient de l'écouter. Et ça, c'est très concret hein, pour nous, jardiniers.
Eh bien, Hugo, effectivement, hein, c'est un souci qui est assez dévastateur, notamment pour les agriculteurs. Ce phénomène donc, de gelée, hein, plus particulièrement, n'est pas nouveau et ne s'explique pas forcément par un dérèglement climatique. Traditionnellement, on peut s'attendre à ce genre d'épisode jusqu'au sein de glace les 11, 12 et 13 mai. Le souci, c'est que les hivers doux provoquent un réveil précoce des plantes en dormance, notamment les arbres fruitiers qui vont produire des bourgeons plus tôt. Des bourgeons qui seront alors sensibles aux épisodes de gelée printanière.
D'une manière générale, les impacts sont plutôt négatifs, hein, Daniel.
Oui, tout à fait, hein. Bien que le réchauffement climatique peut apparaître comme une opportunité pour faire son jardinage en t-shirt toute l'année ou pour faire pousser des dattiers et des mangues en Bretagne, en vérité, le réchauffement climatique a des impacts très concrets et très perturbateurs pour votre jardin. Et on l'a vu avec ce cas des gelées printanières.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conséquences sur nos cultures?
Eh bien, on peut citer des besoins en eau qui sont plus importants, notamment l'été, avec des périodes de sécheresse plus intenses et une augmentation des températures. Il y a aussi une multiplication des maladies et des ravageurs, mais aussi des plantes invasives exotiques, donc les mauvaises herbes. On va rencontrer aussi plus d'épisodes de vent, de tempêtes, de manière générale, plus de perturbations. On va avoir une augmentation des précipitations, notamment en intensité, avec des pluies, de la grêle, qui vont finalement entraîner l'engorgement des sols, le lessivage des nutriments, notamment l'azote minéral qui va être ensuite emporté en profondeur et potentiellement viendra polluer les eaux. C'est ce qu'on a vu, hein, avec les épisodes, les phénomènes comme les marées vertes en Bretagne.
C'est un tableau un peu apocalyptique là que tu nous présentes. Bon, faut savoir que ça se fera progressivement, que ce sont des phénomènes globaux sur le long terme, qui varient aussi en fonction des régions, des localités. Et puis toutes les années ne se ressemblent pas, hein, Daniel. Il peut y avoir par exemple une année avec des gelées très précoces et puis une autre année avec des gelées normales.
Oui, tout à fait. Là où c'est impactant, c'est que ça vient perturber le cycle de vie des végétaux, mais aussi des animaux, hein. Des fleurs printanières un peu sauvages, hein, comme les bleuets qui vont fleurir beaucoup plus tôt, dès début mars. Et puis, par contre, on peut avoir des personnes qui pensent pouvoir faire germer, semer des tomates un peu plus tôt, ce qui est juste, mais qui se feront attraper par ces épisodes de gel qui peuvent, comme on l'a dit, durer assez longtemps, jusqu'à fin mai dans les cas extrêmes.
Gaël, face à tout ça, ce dont vient de nous parler Daniel, l'augmentation des phénomènes extrêmes, les ravageurs, la perturbation des cycles biologiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment aider nos cultures à surmonter ces bouleversements?
Si je te parle de système racinaire, etc., tu penses à quoi?
Sans aller très loin, le sol, la terre.
Exactement. On va pouvoir déjà améliorer la qualité de son sol pour contrecarrer tous ces phénomènes météorologiques qui vont venir changer. Donc en fait, plus un sol est pauvre, plus il est sensible à l'érosion, à la rétention d'eau. En fait, il faut que vous sachiez rendre votre sol vivant, Hugo. Par exemple, vous pouvez déjà utiliser du BRF. Donc c'est le bois raméal fragmenté. C'est des petites branches et du bois broyé en copeaux. En fait, ça va vous aider à structurer le sol. Ça va vous apporter un humus stable. Donc l'humus, c'est la partie haute de la terre qui est composée d'animal et de végétal, pour faire très bref. Et ça va vous garantir une fertilité des sols à long terme. En fait, ça va être favorable également aux vers de terre et à l'aération des sols.
Où est-ce que ça se trouve, le BRF?
Le BRF, alors là, à Toulouse, par exemple, il y en a dans le jardin des plantes de Toulouse, à disposition des gens qui mettent leur compost. Et sinon, ça va se trouver en jardinerie, vous pouvez trouver ça. Et vous pouvez le faire aussi vous-même si vous le souhaitez. Si vous coupez du bois ou autre, vous pouvez acheter un broyeur ou louer un broyeur pour le fabriquer vous-même. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est diversifier vos cultures. Les arbres fruitiers, par exemple, ceux dont parlait Daniel tout à l'heure, sont très sensibles au gel et certains craignent le gel plus que d'autres. Donc ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est sélectionner des arbres fruitiers qui ont un bourgeonnement plus tardif pour éviter la récolte nulle à cause des gelées tardives comme on a vu cette année. C'est pareil au potager, vous pouvez privilégier des semences bio et reproductibles qui sont de plus en plus résistantes aux aléas. Si vous amusez à récupérer les semences d'année en année, par exemple vous faites pousser une tomate et pendant 5 ou 6 ans vous récupérez vos graines de tomate, vous allez à la fin des 5 ou 6 ans avoir un pied de tomate qui connaît votre climat, qui connaît votre sol, et donc du coup vous allez pouvoir déjouer un peu les aléas.
C'est pour ça que d'une manière générale, il vaut mieux semer plutôt que de planter.
C'est ça. C'est bien plus intelligent de semer et de récupérer ses graines et de les ressemer d'année en année. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est mettre des niches écologiques au sein de votre jardin. Une niche écologique, Hugo, c'est
Une friche, enfin un endroit très riche, très diversifié.
C'est ça, Hugo. C'est laisser un espace de pelouse où vous allez laisser des mauvaises herbes pousser pour attirer les auxiliaires. Et grâce au fait d'attirer des auxiliaires, vous allez également déjouer les mauvais tours que peuvent vous jouer certains ravageurs. Et on n'est pas à l'abri que naissent de nouveaux ravageurs au fil des ans avec ces dérèglements climatiques. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est planter des arbres. Pourquoi ? Parce que quand on plante des arbres, ça favorise l'évapotranspiration.
Alors l'évapotranspiration, explique-nous, hein. Je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est.
Eh bien en fait dans évapotranspiration, il y a transpiration, et donc c'est les arbres qui transpirent, en fait qui puisent de l'eau depuis les racines jusqu'aux feuilles. En fait cette eau, elle va passer dans l'atmosphère et elle va le refroidir, et vous allez gagner de précieux degrés au potager. Vous allez le remarquer par exemple pendant les canicules, quand vous allez dans un parc, vous avez l'impression qu'il fait plus frais dans le parc, parce qu'en gros les arbres rafraîchissent l'atmosphère. Les arbres vont également apporter de l'ombre aux plantes qui en ont besoin. Donc là, il faudra privilégier évidemment des arbres peu feuillus, parce que sinon vous allez mettre trop d'ombre dans votre potager. Et en fait, ça va apporter une ombre parfaite pour diminuer les degrés au sol. Et ensuite, les arbres vont favoriser l'écoulement de l'eau grâce au système racinaire, et donc du coup, ça va protéger vos sols de l'érosion.
Alors une autre chose, il paraît que les plantes vivaces s'en sortent mieux, paraît-il. Pourquoi ? Et profites-en pour nous réexpliquer ce que sont les plantes vivaces.
Ouais, alors une plante vivace, c'est une plante qui va perdurer d'année en année, contrairement aux annuelles ou biannuelles qui sont sur un cycle de 1 an ou 2 ans. En fait, les plantes vivaces, c'est un peu votre gâchure. C'est quand vous avez la possibilité de semer ou planter une variété qui peut être annuelle ou vivace, faut la privilégier, puisqu'elle sera plus rustique et résistera davantage aux aléas de la nature.
Bon, très bien. Alors, tu nous as parlé de beaucoup de choses, tu nous as donné beaucoup d'informations. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap sur les solutions pour contrer ce réchauffement climatique ?
Alors, un petit récap rapide. Vous allez pouvoir améliorer la qualité du sol, diversifier vos cultures avec notamment des arbres ou d'autres espèces potagères, faire des niches écologiques ou des friches, planter des arbres et favoriser les plantes vivaces. Et c'est ce qui va vous aider contre le réchauffement climatique qui est malheureusement imminent.
Très bien, merci Gaël. Allez, une autre petite information au passage. Savez-vous que posséder un jardin, cultiver des végétaux est déjà une solution en soi, surtout dans les grandes villes ? Météo France, par exemple, estime qu'augmenter de 30% la surface végétale à Paris permettrait d'abaisser la température d'au moins 2 degrés en cas de forte canicule. Donc, on fait tous un petit quelque chose déjà, et parfois sans le savoir. Alors pour refermer la séquence réchauffement, une petite question, Daniel. On entend parfois dire que le CO2, donc, qui est responsable du réchauffement climatique, bénéficie aux plantes qui consomment du CO2 lors de la photosynthèse pour croître. On estime qu'il y aura une augmentation de environ 20 à 30% de photosynthèse d'ici à la fin du siècle. Est-ce que finalement, malgré ce que vous nous avez dit, nos plantes ne pourraient pas bénéficier d'une certaine manière du changement climatique?
Oui, tout à fait. Donc, de manière générale, en fait, on voit que le réchauffement climatique va entraîner une augmentation des jours de croissance des végétaux. Donc ça, on pourrait le voir comme quelque chose de finalement assez positif, hein, puisqu'on va avoir des périodes de floraison un peu plus longues. Mais là où on va avoir de nombreuses perturbations, c'est que le réchauffement climatique entraîne une certaine incertitude et des événements climatiques très bouleversants et difficilement, beaucoup plus difficilement prévisibles.
Oui, donc le bilan net sera plutôt en leur défaveur, on va dire. Mais bon, termine sur une petite pointe optimiste quand même, Daniel, pour pas qu'on se pende après cette émission.
Non, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir des impacts sur les écosystèmes cultivés, mais la nature est résiliente, et c'est ça qui est magnifique, et on verra, on va voir, les écosystèmes vont naturellement s'adapter.
Merci à vous deux, allez, plus léger maintenant, on passe au point Q du chef Gaël.
C'est point Q.
Les points Q, comme culinaire.
Gaël, tous les mois, tu nous proposes une petite recette faite exclusivement avec les plantes du jardin. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors, petite recette, Hugo, petite recette, non, grande recette. Je vais vous parler des capucines, ces belles fleurs colorées aux feuilles joliment rondes. Est-ce que vous saviez, Hugo et Daniel, que ces dernières pouvaient être mangées ?
Ah bah, moi personnellement, je savais pas, Daniel.
Oui, c'est très bon en salade.
Alors, c'est une recette pour 4 personnes, et donc pour 4 personnes, il vous faudra 12 feuilles de capucine avec la tige. La tige est importante puisqu'elle va vous servir à fermer les rouleaux. 6 fleurs de capucine, un fromage de chèvre frais, une demi-cuillère à café de piment doux, une demi-cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de ciboulette ciselée, du jardin bien évidemment, et pour les plus aventureux, du tabasco. Alors vous pouvez évidemment et vous devez rajouter du sel et du poivre. Donc pour faire la recette, mélangez d'abord le fromage de chèvre frais, les piments, le cumin, la ciboulette, vous mélangez tout ça, et vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe dans votre feuille de capucine, vous roulez votre feuille de capucine et vous fermez le rouleau avec la tige. Et ensuite, vous pouvez hacher les fleurs de capucine ou les laisser joliment mises sur vos rouleaux et ce sera juste très bon. Donc voilà, à vos cuillères, à vos fourchettes et bonne dégustation.
Très bon ça, merci Gaël.
Merci Gaël, tu nous mettras la recette sur la page de l'émission.
Ouais, pas de soucis.
Alors avant de terminer cette émission, nous sommes en ligne avec Hugo Sozo, un des membres de la direction de Mister Hyde. Alors toi, ta chronique portera tous les mois sur l'histoire d'une plante, de sa découverte jusqu'au semis. Quelle plante tu as choisi ?
Et oui, Hugo, nous nous intéressons aujourd'hui à une plante vivace de la famille des urticacées. Alors c'est l'archétype de la mauvaise herbe, injustement dénigrée, c'est une herbacée qui est pourtant bien plus précieuse que menaçante. Nous parlerons, vous l'aurez certainement deviné, de l'ortie. Mais les milieux de petits dards gorgés d'un liquide urticant qui permettent d'activer le système défensif de la plante nous amènent souvent à la classer dans la catégorie des nuisibles.
Meurs, pourriture communiste.
Et nos ancêtres, eux, ne s'y sont pas trompés, puisque l'ortie est utilisée depuis l'Antiquité dans le monde paysan, comme engrais et pesticides naturels. Et oui, car l'ortie offre une alternative écologique bien plus efficace que tous les produits phytosanitaires existants. Utilisée en purin ou en poudre, elle fait fuir les pucerons, les acariens, les champignons et même le mildiou. Elle permet également de renforcer les défenses naturelles des plantes en stimulant la production de substances antibiotiques. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est également un activateur de croissance pour vos cultures.
Ça, c'est vrai, ça !
Et cette plante rudérale est également un véritable marqueur de l'activité humaine, puisqu'elle aime à se développer dans les environnements transformés par l'homme. Ruines, bords de route, parking, l'ortie va se nourrir des déchets liés à notre passage, et notamment les nitrates qui s'accumulent dans le sol. Et en les filtrant, elle va permettre à la biodiversité de reprendre ses droits et à d'autres espèces de s'y développer. Et au-delà des bienfaits de l'ortie au jardin, les bénéfices sur la santé de cette herbacée sont également considérables. C'est d'ailleurs le père de la médecine, Hippocrate, qui le premier en 400 avant Jésus-Christ, mettait en lumière ses propriétés médicinales. Il répertoria non moins de 61 remèdes, aussi bien pour soulager les douleurs articulaires que faire fuir les vers ou même soigner la calvitie. Et d'ailleurs, les progrès de la science nous permettent aujourd'hui d'attribuer avec certitude à l'ortie de nombreuses vertus. Antidiurétique, anti-inflammatoire, reminéralisante, anti-anémique et véritable bombe de nutriments pour le corps. Car tenez-vous bien, l'ortie contient 7 fois plus de vitamine C que dans les oranges, 3 fois plus de fer que dans les épinards et autant de calcium que dans le fromage. Elle apporte également de bonnes doses de phosphore, magnésium et protéines indispensables au bon fonctionnement du corps.
Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
Et puisqu'on en est à énumérer les bienfaits de l'ortie, citons, dans un tout autre registre, l'élite romaine qui, elle, l'utilisait pour ses vertus aphrodisiaques. Et oui, en effet, ils se flagellaient mutuellement avec ses branches afin de pimenter leurs débats amoureux. Et cette plante fascine d'ailleurs tellement que le grand Victor Hugo lui-même lui a consacré un poème dans son recueil « Les Contemplations » et il vantait également son utilité dans le domaine agricole dans son œuvre « Les Misérables ».
J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, parce qu'on les hait et que rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. parce qu'elles sont maudites, chétives, noires, êtres rampants, parce qu'elles sont les tristes captives de leur guet-apens.
Alors devant cet étalage de bienfaits conférés à l'ortie, est-il encore juste de la réduire à son côté urticant? Eh bien non, je ne le pense pas, et estimons-nous heureux d'ailleurs, car l'ortie qui s'est répandue à travers toutes les régions tempérées du monde durant son évolution a pris de nombreuses formes. Nous la connaissons légèrement urticante d'une taille de quelques centimètres en Europe. Eh bien, figurez-vous que son cousin australien, le Stinging Tree, évoluant dans les forêts pluviales du Nord Queensland, prend la forme d'un arbre immense, plus de 30 mètres de hauteur et de 2 mètres de diamètre. Sa piqûre est également extrêmement dangereuse et elle provoque une douleur tellement intense qu'elle vous enverra directement à l'hôpital.
Elle pique tellement fort, t'as les yeux qui piquent, samouraï!
Alors ne boudons pas l'ortie, utilisons-la en cuisine, en tisane, en infusion pour profiter de ses bienfaits sur la santé, et semons-la au jardin, nos plantes s'en réjouiront. Et la bonne nouvelle d'ailleurs pour les jardiniers, c'est que l'ortie se sème de mai à juin, alors pour les retardataires, il est encore temps.
Merci Hugo pour cette belle histoire.
La main, pas si verte.
C'est la fin des haricots, les amis. On doit se quitter. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel opus radiophonique. D'ici là, gardez les pieds sur terre et gardez la main verte.
Salut, salut!
Salut à tous!